C'est pas sorcière. 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 C'est pas sorcière.
Coucou. Bienvenue dans C'est pas sorcière. Je suis Louise et pour ce nouvel épisode de notre podcast, je suis accompagnée de Charlotte. En 2016, dans le cadre de ses études en histoire, Charlotte a écrit un mémoire sur ce qu'elle va présenter comme le pendant humoristique et plutôt positif du Malleus Maleficarum. Donc ça a piqué mon intérêt et donc je lui ai proposé de venir en parler. Et donc aujourd'hui, on va parler des évangiles des quenouilles. Vous savez peut-être, moi je ne connaissais pas du tout, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on apprenne à connaître un peu Charlotte, et du coup je vais lui poser la question que j'ai posée à tous mes invités jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a une sorcière imaginaire ou historique que tu affectionnes particulièrement ?
Oui, moi je pense tout de suite à la sorcière Camomille.
Ouais.
Quand je vois que tu la connais aussi.
Oui.
J'avais reçu donc les œuvres complètes quand j'étais petite, et c'est dans un petit livre qui ressemble à un petit grimoire, et j'avais adoré, je le lisais tout le temps, je l'emportais partout. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorcière qui est un peu effrontée et décalée de la réalité, mais à la fois elle est trop forte et indépendante, et il lui arrive plein de folles aventures super drôles, avec son petit compagnon, un hibou qui s'appelle Gros Yeux, que je trouve trop classe.
Oui.
Et donc voilà, c'est un peu grâce à elle que je suis passionnée de sorcellerie. Et même si c'est un livre pour enfants, j'aimerais bien le relire et j'ai hâte de pouvoir le relire avec ma fille bientôt.
Ah, trop mignon. Trop bonne idée. Moi, je l'avais aussi quand j'étais petite et je l'ai beaucoup aimé. En plus, c'est vraiment l'archétype de la sorcière. Bah, on va voir, oui. ça répond un peu avec les sorcières de l'Évangile des Quenouilles parce que c'est une vieille femme avec un gros nez.
Voilà, elle n'est pas très modèle, mais elle est trop attachante.
Non. En fait, c'est peut-être ça qui t'a donné ensuite envie de travailler sur l'Évangile des Quenouilles.
Peut-être, j'ai vu les liens.
Et donc, rentrons justement dans le vif du sujet. Ton mémoire s'intitule « La vision de la femme dans les évangiles des quenouilles ». Et déjà, c'est quand même un sujet, souvent les sujets de mémoire, c'est vraiment très précis. Donc la question qu'on se pose évidemment, c'est comment tu es arrivée à travailler sur ce sujet très précis ?
Comme on va travailler en histoire pendant 2 ans sur un mémoire, moi je voulais absolument travailler sur ce qui me passionne, donc les sorcières et la sorcellerie. Mais c'est quand même un sujet qui est très populaire. Les procès de sorcellerie dans le Brabant, ça a déjà été traité par plein d'historiens. C'était un
Ah
peu
oui, parce que tu es
difficile.
belge, pour préciser.
c'est un peu compliqué de trouver un nouveau sujet sur les procès en tant que tel. Et en plus de ça, je ne voulais pas me retrouver avec un énorme corpus d'archives à analyser. Je venais de faire un travail sur l'évolution de la façon de plier les chartes dans une abbaye belge.
Wow.
Et je ne pouvais plus voir une archive en peinture, ce n'était plus possible.
Plus jamais.
Voilà. Et donc, je me suis dit que si je travaillais sur une œuvre littéraire, mon corpus, c'était juste mon œuvre littéraire, et puis voilà.
Ah.
Donc, je me suis mis à chercher des œuvres littéraires qui parlaient de sorcières et qui avaient été peu ou pas trop analysées par d'autres historiens. Et un peu par hasard, je suis tombée sur les Évangiles des Quenouilles, dont le titre m'a attirée. Et ça a été un coup de foudre parce que c'est un roman qui est humoristique, mais qui permet d'étudier la femme à la fin du Moyen-Âge, début des temps modernes, mais surtout particulièrement les sorcières. Et donc, c'était parfait.
Ouais. Et puis, c'est vraiment un axe hyper original que moi, je ne connaissais pas. Donc, c'est chouette de pouvoir découvrir surtout quelque chose. Parce qu'au départ, je me suis dit, c'est peut-être on ne connaît pas parce que ce n'est pas connu, mais on verra par la suite. En fait, à l'époque, ça a eu quand même un bon succès. Ça a été bien diffusé. Donc,
Ouais,
c'est intéressant d'aller étudier ça. Et du coup, justement, qu'est-ce que c'est le « ça » Qu'est-ce que c'est les évangiles des quenouilles?
Alors, c'est Les Évangiles des Quenouilles, c'est un roman dont l'auteur est anonyme, en fait. Il a été rédigé entre 1470-1470.
Traduction.
Donc, comme tu l'as dit, c'est un contemporain du Malleus Maleficarum d'Institoris. Et on peut le situer dans la région de Flandre et du duché de Bourgogne. Donc, ça correspond aujourd'hui à la Belgique et au nord de la France, plus ou moins. Le livre, donc, c'est un récit sous forme de compte-rendu. Donc, l'auteur, qui est un homme, il est invité par des femmes à participer à cette veillée, des réunions en soirée. Et elle l'invite pour qu'il soit leur secrétaire et qu'il note tout ce qu'elle raconte. Et donc, dans le livre, il va décrire ses veillées chaque soir. Il y a une présidente de soirée, qui est souvent une vieille femme un peu sorcière, qui va livrer son savoir et ses astuces. Et l'auteur va dire qu'il s'exécute un peu bon gré mal gré. Tout au long du livre, il dit: Ah ben non, moi, ce que j'écris, j'y crois pas du tout, c'est que des sottises. Mais je le fais en échange de vin, en échange de pouvoir rencontrer une jeune fille. Voilà. Et il se moque souvent d'elle. Mais quand même, il retranscrit tout ce qu'elle dit. Même s'il se moque, il écrit.
Il le fait avec
Et,
mauvaise volonté, mais il le fait.
voilà. Et donc en tout, les évangiles de Quenouille, c'est 230 croyances populaires et féminines qui traitent du quotidien de la femme. Donc tout ce qui est mariage, naissance, sexualité, les maladies courantes, comment guérir, comment se protéger du mal, du bien, enfin, attirer la chance, tout ce genre de choses. Donc ça permet vraiment de pouvoir agir sur son quotidien. Et le titre Évangile des Quenouilles, c'est super représentatif en fait du contenu. Déjà, le fait que ça s'appelle Évangile, ben, on voit le côté humoristique, il va se moquer de la religion. Hein. Les quenouilles, c'est un instrument pour filer la laine. Hein. Et ça correspond à la réalité historique des femmes pauvres et seules qui souvent ben, gagnaient leur vie en filant la laine et en réalisant des tâches liées à la production textile. Et en anglais, le mot spinster, qui à l'origine ça veut dire fileuse, et ben aujourd'hui ça veut dire vieille fille. Donc les évangiles des quenouilles, c'est des réunions de fileuses, de vieilles femmes seules.
Ah, mais c'est trop bien. J'avais pas le spinster, j'avais jamais calé d'où ça venait.
Ouais, ben voilà, c'est des fileuses.
Bon, on n'est même pas encore rentré au vif du sujet et j'apprends déjà plein de trucs. C'est trop bien. Bah justement, pourquoi bah, ce livre, en même temps, tu viens déjà un peu de répondre à ma prochaine question, mais pourquoi il est intéressant pour étudier la figure de la sorcière?
Ben, déjà, comme on a la plupart des personnages sont des femmes en fait, donc ce qui est plutôt rare hein, dans un monde un peu machiste. Et puis, ben, les femmes des évangiles des quenouilles, ben, c'est vraiment le portrait type de la sorcière. Elles sont vieilles, elles sont luxurieuses et aussi elles sont détentrices d'un savoir. Donc, les femmes du peuple, c'est souvent un sujet qui est vraiment délaissé dans les archives de l'époque. Voilà. Et les chroniques, par exemple, ça se concentre vraiment sur les grands faits, les guerres, les famines, les rois, pas la femme. Donc, un récit comme ça qui se base sur les femmes, ben, ça permet vraiment d'appréhender comment, au XVe siècle, on considérait la femme du peuple, les vieilles, la sagesse populaire et la sorcellerie, même si c'est un récit caricatural et que vraiment, c'est traité à gros traits. C'est pas une vision exacte, mais on peut appréhender le sujet, quoi. Mais ouais, faut vraiment prendre des pincettes. C'est comme si dans 500 ans, on se basait sur Fichier d'Objet pour analyser les relations hommes-femmes en 2010. Ben oui, mais bon, non, quoi. Pas tout
Pas
à fait,
vraiment, même pas du tout.
quoi. Voilà, mais ça dit quelque chose de son époque quand même.
Ouais, c'est ça. Et ce qui était intéressant, c'est que dans ton mémoire, tu cites une dizaine d'œuvres qui se sont inspirées directement des Évangiles des Quenouilles, qui a été même lui-même republié plusieurs fois et bien diffusé. Donc, comme tu dis, c'est vraiment intéressant pour voir la mentalité de l'époque, quoi. C'était pas un truc anodin qu'il a écrit dans son coin. C'était vraiment une idée qui a été partagée.
Ah oui, c'était vraiment un best-seller des temps modernes.
Bah, du coup, la question qui en découle, c'est que comment les gens ils l'ont reçu? C'était plutôt est-ce qu'ils le prenaient aussi au second degré? Est-ce que c'était au contraire pris au pre... enfin, l'ironie n'a pas été perçue? Comment le livre a été reçu à son époque?
Ben, en fait, il a été reçu de deux manières. Soit il était vraiment compris pour ben, son aspect comique, hein. Soit c'était plutôt mentionné par les moralistes pour mettre en garde contre le texte. D'ailleurs, il a été mis à l'index. Donc, l'index, c'est la liste des livres condamnés et interdits à la lecture par les autorités catholiques. Donc, il est mis à l'index en 1570. Donc, 100 ans encore après sa rédaction, ben, on s'en souvient et il inquiète encore qu'on l'a mis à l'index.
Oui.
Voilà. Et d'ailleurs, je peux citer l'extrait des lois d'Amerval dans le livre de la Diablerie. Qui parle des évangiles des quenouilles. Et dans le contexte, c'est Satan qui va vanter à Lucifer les mérites des évangiles des quenouilles.
C'est hilarant.
Donc, c'est du vieux français, mais c'est tout à fait compréhensible. Comment l'acteur des prises de livres, inutiles et lubriques, non tendant à bonne mœurs et vertus, n'ont-ils pas le gentil libelle que je répute une œuvre belle, les évangiles des quenouilles? Combien ne vaut deux grenouilles à gens de bon entendement? Et aussi, d'autres grandes largesses où la doctrine ne sagesse, ne nulle bonne instruction, j'entends pour leur salvation, mais sont tous pleins de rêveries, de risées, de moqueries, de paroles luxurieuses qu'ils trouvent tant délicieuses, de fables, d'un grand tas de mensonges, de folies et de mensonges, et de grandes erreurs, bien souvent, qu'ils vont lisant dans leur couvent.
De faire rimer grenouille et quenouille déjà.
Oui,
C'est
le
génial.
level. C'est du haut level.
Donc là, ça montre bien le côté moralisateur sur l'évangile de l'économie, quoi. C'est
Oui,
vraiment pas perçu
vraiment.
comme quelque chose de positif.
Non, c'est des mensonges. Et en plus, comme c'est Satan qui le recommande,
Ouais. Et puis même la recommandation en elle-même fait pas trop
Oui,
trop envie.
exactement.
Donc ça, c'est plutôt le pendant assez négatif. Mais y a quand même du positif, puisque, enfin, comme tu disais, ça, c'est un ouvrage qui a bien marché, qui a eu son petit succès.
Oui, c'était vraiment un best-seller. Il a énormément circulé. Il a été traduit en plusieurs langues. C'était à la fois un public noble, parce qu'on a retrouvé deux manuscrits enluminés, alors qu'à l'époque, l'imprimerie, ben, c'était déjà bien implantée. Donc il y a une volonté d'avoir des objets de luxe contenant les évangiles des quenouilles. Mais c'était aussi destiné à un public beaucoup plus large parce qu'on a reçu beaucoup d'éditions imprimées. Bon, peu nous sont
Ouais.
parvenus parce que ce n'est pas des objets de luxe et que donc
Oui,
ils ont été
c'est moins
détruits
bien
la plupart.
conservé.
Voilà. Mais on en a retrouvé, donc ça veut dire qu'il y en a une pelletée pour qu'ils nous parviennent encore aujourd'hui.
Ça veut dire que ça a été lu à la fois par du coup des gens de la noblesse comme
Voilà.
un public plus populaire.
Voilà, c'est ça. Lettré, toujours, mais populaire.
Et c'est même assez intéressant que ce livre, qui soit assez ironique, ait eu le droit à des manuscrits bien travaillés, bien imprimés.
Oui, mais comme enfin, à l'époque, les gens de la cour avaient des bibliothèques, donc oui, les romans grivois sont retrouvés dans des beaux manuscrits.
Ouais.
Ça, oui, c'est un humour qui est commun à l'époque et c'est pas non plus trop surprenant qu'un truc humoristique
Oui,
soit dans des
j'imagine
livres de
qu'ils n'ont pas
luxe.
envie de lire que des trucs sérieux, comme tout le monde.
Voilà, c'est ça.
Donc ça avait peut-être même plus de succès que, bon, la Bible, c'est bon, on l'a lu, on l'a relu.
Bon, j'irai pas jusque-là, mais parce que la Bible, c'est quand même le plus gros best-seller du temps.
Oui, j'ai pris le mauvais exemple, mais...
Mais oui, en effet, voilà, on a retrouvé des ouvrages dans des bibliothèques qui ont appartenu vraiment à l'aristocratie de la cour de Bourgogne. Donc, ça a été lu par du grand monde.
Et donc pour rentrer un peu dans le corps du texte des Évangiles des Quenouilles, toi dans ton mémoire tu as analysé notamment la représentation de la femme, en quoi c'était des femmes plutôt âgées, le côté aussi lubrique de ces femmes et enfin la figure de la sorcière. Et notamment en fait tu dans le paragraphe, enfin le chapitre pardon sur la figure de la sorcière, tu montres bien que le fait qu'elle soit vieille et qu'elle soit lubrique, ça colle vachement bien à la figure de la sorcière. Donc je voulais te demander de nous en dire un peu plus sur ces représentations de la femme qu'on voit dans les Évangiles des Quenouilles.
Oui. En fait, être vieille et lubrique, c'est deux caractéristiques vraiment typiques de la représentation de la sorcière dans la littérature. Et là, dans les quenouilles, elles ont les deux. Elles sont luxurieuses et elles sont,
Bingo.
voilà. Et elles ont toutes entre 57 et 80 ans. Donc, elles sont considérées comme vieilles. Dans la littérature satirique, c'est surtout le côté négatif de la vieillesse qui est exploité. Et que ces deux caractéristiques, donc, enfin, surtout la luxure, etc., c'est lié à une tradition misogyne qui remonte déjà à l'Antiquité et qui accable la femme vraiment sur le plan à la fois physique, moral et aussi sociétal. Donc,
Ouais, ça attaque de tous les côtés.
voilà. Il faut un gilet pare-balles à l'époque. La décrépitude physique et morale, c'est toujours lié. En
Ouais.
vieillissant, les auteurs considèrent que la femme, elle perd de sa beauté. Et dans les
Ah.
évangiles, des quenouilles, elles sont décrites comme trop maigres, trop grosses, ridées, sans dents. Et cette laideur physique est vraiment censée être le reflet de leur laideur morale. Voilà,
Ok.
donc j'ai ici un extrait de Dame Meho, qui est une des évangélistes des quenouilles, et
Ouais.
qui, on voit, elle veut profiter encore de sa vie à fond. À cette parole, Dame Meho mit ses mains sur ses hanches et en grand courroux lui répondit que oui, elle avait encore vers en train et que pour coucher dessous, il ne fallait pas regarder à l'âge, mais seulement au désir qui avait persisté en elle et que Dieu merci, le beurre fondait encore dans sa bouche, même si elle ne pouvait plus croquer noisette, n'ayant qu'une seule dent. Oh voilà, ça c'est typique. Elle est luxurieuse, elle aime bien manger, elle aime le vin, être en bonne compagnie, voilà. Tous les clichés sont là.
Mais du coup, enfin, avec notre regard d'aujourd'hui, c'est des personnages qu'on trouve plutôt positifs.
Ah ben, je pense que même à l'époque, hein,
Ouais.
franchement, c'est l'idée qui en ressort. On a envie de se joindre à elle, moi aussi,
Bah
je
ouais. Écoute,
veux.
du bon vin, de la bonne nourriture, allez, vendu.
Et aussi, donc, je disais le statut social qui en pâtit quand on devient vieille, parce que à la fois, ben, elles ne créent plus le plaisir parce qu'elles sont laides, elles sont socialement improductrices ou improductives parce qu'elles ne peuvent plus avoir d'enfants,
Donc elles servent à rien, entre guillemets.
entre guillemets. Souvent, comme elles sont veuves, alors ça c'est dû à l'écart, les femmes se marient plus jeunes que les hommes, donc bon, de facto, souvent elles
Ouais.
sont veuves. Et même si elles gagnent en indépendance, ben, elles deviennent plus vulnérables. Elles perdent un protecteur, une source de revenus. Et en plus de ça, à l'époque, comme elles gagnent l'utilisation de leur dot de manière indépendante, ben, ça peut créer des tensions familiales. Si elles décident de vivre de manière autonome ou de se remarier, ben, quid de l'argent.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est pour ça qu'à l'époque, ben, des femmes ont été accusées de sorcellerie à cause de ces tensions familiales. Qui voulaient récupérer. Pardon.
Puis comme tu disais, elles sont vulnérables. Elles n'ont plus
Voilà.
un mari qui peuvent les protéger. Donc c'est assez
Voilà.
facile de les attaquer.
Exactement. Maintenant, voilà, ça fait un portrait qui est très noir et il faut nuancer un peu. Dans la réalité, les femmes âgées, elles n'étaient pas non plus autant rejetées, on ne les considérait pas non plus comme totalement inutiles. Elles avaient un rôle à jouer dans la société et il était reconnu. Ça, c'est vraiment la tradition dans la littérature du blâme des femmes. Mais dans les textes légaux, le rôle est reconnu. Et aussi dans d'autres œuvres de littérature, bon, on peut citer Christine de Pizan, qui, dans ses livres, écrit qu'elle souhaite une plus grande reconnaissance envers l'accomplissement des tâches féminines et la fin des injures adressées aux femmes.
Ah,
Voilà.
wow.
Oui, on a une féministe. Enfin. Mais voilà, le rejet de la femme âgée, c'est vraiment dans la littérature un thème qui en fait ça sert pour exprimer cette peur de la déchéance, cette peur d'être un poids économique pour les familles et un peu une peur de la mort dans une époque où la mort c'est vraiment du quotidien.
Et est-ce qu'elles étaient vues, parce qu'on parle souvent du vieux sage, est-ce que pareil, les femmes âgées, elles peuvent être vues comme les vieilles sages qui, du coup, du fait de leur âge, ont acquis plein de connaissances et du coup sont hyper intéressantes?
Elles sont pas vues comme un. C'est moins souvent qu'elles soient vues comme un puits de connaissances. On les représente plutôt comme la vieille femme pieuse qui, après avoir vécu une vie de bonne chrétienne, va léguer tous ses biens à telle abbaye et rejoindre un
Ah.
couvent. Voilà, c'est plus la femme pieuse que la femme qui a des connaissances.
Ok.
Et aussi pour le côté lubrique, hein, dans les évangiles des quenouilles, il y a des références permanentes.
Légèrement.
C'est permanent, c'est toutes les lignes, il y a une référence à la sexualité. C'est l'humour de l'époque, c'est grivois. C'est à la fois dans le nom des personnages, Perrette Longue Tête, hein, Marion Jolie Pouf. Voilà. Et aussi, mais dans les descriptions des personnages ou dans le contenu du texte, ben, on les décrit comme d'anciennes prostituées ou des femmes qui aiment bien attirer les jeunes hommes. Bon, voilà, elles sont luxurieuses. Et
Ouais.
en plus d'être luxurieuses et lubriques, elles sont souvent d'anciennes prostituées ou des maquerelles. Donc les maquerelles, c'est celles qui jouent un peu le rôle d'entremetteuses entre les hommes et les jeunes femmes. Et ça, c'est une réalité vraiment sociale de la fin du Moyen-Âge et des temps modernes. C'est que souvent, les femmes seules des classes défavorisées ont eu recours à la prostitution. Et si au Moyen-Âge, ben, l'Église, elle considère la prostitution ben, comme un mal nécessaire, hein, il y a même des abbesses qui dirigent des lieux de prostitution.
Ah ouais.
C'était institutionnalisé. C'était mis de côté, hein, c'était pas
Ça
au
ramène
centre
des
de la
sous en
loi.
même temps, donc
Voilà, ouais, exactement. Donc, ok, c'est pas très bien, mais on s'en utilise quand même, ça nous arrange. Mais à la fin du Moyen-Âge, ça se dégrade totalement, ça va plus du tout être considéré de la même façon. La prostitution, ça va vraiment être de plus en plus diabolisé et condamné à la fois par les autorités laïques et par l'Église. Et ben, donc à la même époque, dans les évangiles des quenouilles, au contraire, on voit vraiment que c'est présenté comme un métier comme un autre. Elle dirait qu'elle est boulangère, que ça ne choquerait pas plus.
Oui,
Donc
c'est un fait.
c'est un peu un contre-pied de l'époque.
Ouais.
Mais par contre, au XVe siècle, la sexualité, c'est pas tabou, hein, dans la vie de tous les jours, comme dans la littérature humoristique. C'est quelque chose qui est vraiment du quotidien. C'est juste qu'il y a une montée de discours moralisateurs à l'époque. Voilà.
Ce qui va entraîner bah justement tout le contexte qui favorise les chasses aux sorcières, quoi.
Exactement. Et en plus de ça, on peut même faire un lien entre prostitution et sorcellerie,
Ah.
parce que pour les démonologues, la luxure, qui est un grand péché, et la sorcellerie, ben c'est totalement lié.
Ouais.
Ça va comme cul et chemise. Voilà.
Ouh.
Dans les couches populaires, vraiment, on a beaucoup recours aux superstitions et les prostituées ne font pas exception. Et donc, on a par exemple dans les archives, on sait qu'à Bruxelles, les prostituées, elles mettaient parfois un doigt de pendu en dessous
Ah
de leur
oui.
lit, comme un petit talisman protecteur. Ben après, le curatif.
J'ai lu ça dans ton mémoire, ça m'a dégoûté.
Ouais. Mais du coup, quand on trouve ça chez une femme qu'on accuse de sorcellerie, ben, c'est facile après
Ouais, c'est une
d'avoir des
preuve,
preuves.
entre guillemets.
Voilà. Mais
Bah, du coup,
comme je le
ça
disais.
montre bien que c'est plutôt le pendant positif du Malleus Maleficarum qui va condamner justement luxure et sorcellerie. Et là, toi, tu disais dans les évangiles de la quenouille, c'est pas. Voilà, je suis prostituée, c'est un fait,
Mais oui,
c'est pas vu
c'est
comme quelque
exactement
chose
ça.
de.
En fait, elles sont décrites vraiment crûment. Voilà, vraiment, on les décrit comme laides, lubriques, y a pas de. C'est pas tendre les évangiles des quenouilles. Mais
Ouais.
on n'en a pas une impression négative à la fin de la lecture. Vraiment, elles sont sympathiques, on a envie de se joindre à elles. Et même s'il n'est pas tendre, vraiment, ils semblent plutôt les taquiner, plutôt que
Ouais.
de mettre en garde. Oh, le lecteur, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont lubriques. C'est donc en opposition aux textes moralisateurs de la même époque.
Comme tu disais, c'est aussi la posture de l'auteur qui il se moque d'elle, mais en même temps il revient tous les soirs à écrire son petit compte-rendu qu'on lui a demandé. Donc c'est pas non plus si négatif que ça,
Exactement.
quoi.
C'est ça, si vraiment c'était. S'il avait peur pour son salut, il ne reviendrait plus, quoi.
Oui, c'est ça. Ah, c'est fun quand même, allez, j'y retourne.
Exactement.
Bah, pour ce lien avec la chasse aux sorcières, et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton mémoire, c'est que tu recontextualises bien ton propos avec bah, ce qui se passait à cette époque et la vision des gens. Et tu as fait un super travail de lister toutes les conséquences possibles des chasses aux sorcières. Et quand j'ai lu ce passage dans ton mémoire, je me suis dit, mais si j'avais lu ça au début que je commençais à m'intéresser sur les chasses aux sorcières, ça m'aurait économisé tellement de temps, parce que j'avais jamais trouvé quelque chose qui vraiment liste tous les contextes. Et donc je proposais aussi qu'on s'arrête un petit moment pour revoir toutes ces causes possibles de la chasse aux sorcières. Et pourquoi c'est intéressant aussi avec le lien avec l'évangile des quenouilles qui... Bah, si on lisait que celui-là, on se dirait bah, pourquoi derrière il y a eu des massacres, quoi.
Oui, en effet, le contexte de l'époque, c'est hyper important parce que les gens ne se sont pas réveillés soudain en se disant bah, « Tiens, je brûlerais bien ma voisine aujourd'hui.
» Ah, vas-y, elle a fait du bruit toute la nuit, allez.
Au bûcher. Non, voilà. Donc oui, il y a eu la diffusion de livres aussi des démonologies, les œuvres moralistes qui ont eu une influence sur la chasse aux sorcières, mais pas que. Il y a le contexte social et économique de l'époque qui a influencé cette chasse. Et en l'occurrence, le contexte de production des évangiles des quenouilles, donc la fin du XVe siècle, tout début des temps modernes, et la Flandre et le Brabant, il y a eu plein de chamboulements à ce moment-là. Il y a aussi dans toute l'Europe, en fait. C'est un peu un changement d'époque, du Moyen-Âge au temps moderne, il y a plein de choses qui arrivent. Et d'abord, il y a l'Église qui a peur de perdre sa supériorité et son influence sur la société. On est dans un contexte où il y a de nombreuses hérésies qui commencent à apparaître, comme les cathares, les vaudois.
Oui.
Et c'est aussi un contexte de réforme religieuse, il y a la montée du protestantisme. On ne reconnaît pas du tout l'autorité du pape et l'autorité classique de l'Église. Et donc, vraiment, l'Église se dit, mince, je suis en train de perdre des fidèles. C'est mon influence sur la société. Et du coup, dès 1326, la sorcellerie et les pratiques d'actes magiques vont être assimilées à de l'hérésie. Mm. Et l'hérésie, c'est le pire de tout. Donc ça, c'était dans la bulle du pape Jean XXII, si jamais. Et en fait, à l'époque, l'Église cherche vraiment à réaffirmer son pouvoir sur le peuple et les autorités laïques. Et pour cela, elle va vraiment s'immiscer de plus en plus dans la vie quotidienne des fidèles. Donc elle va vraiment institutionnaliser les sacrements du mariage, l'enterrement. Elle va donner énormément de recommandations morales sur le quotidien des fidèles, qui avant était un peu moins le cas, on va dire.
Et puis ça institutionnalise aussi, comme tu dis, c'est du coup la bulle du pape, c'est vraiment, il a écrit un truc pour acter les choses, quoi. C'est même plus de l'oral, quoi.
Ouais. Et c'est aussi un contexte qui est très difficile, hein. Il y a les conflits armés qui reprennent vers 1480, alors qu'avant c'était une période un peu plus calme, on va dire. Il y a une recrudescence aussi des épidémies, des périodes de famine. Bref, l'avenir est un peu incertain, et souvent, quand on a peur de mourir, il faut protéger sa vie après la mort, il faut protéger son salut. Et quelle meilleure manière que de combattre les mauvaises mœurs, la sorcellerie et l'hérésie.
Voilà. Et puis c'est plus simple d'accuser sa voisine que d'accuser le climat qui a fait qu'on a eu une mauvaise récolte, quoi.
Oui, ça c'est vraiment un phénomène de dénonciation. Dans les communautés, il y a à la fois des individus qui, comme tu le dis, cherchent un bouc émissaire, et puis il y a aussi d'autres individus qui vont chercher un peu à profiter de ce climat tendu.
Ça tombe bien, j'avais envie de me débarrasser de ma voisine.
Exactement, pour pouvoir un peu, ma voisine est là. C'est de l'opportunité. Et pour améliorer leur situation dans un contexte un peu difficile. Donc c'est ça. Et puis, il y a aussi la monarchie, qui, elle aussi, elle cherche à protéger son pouvoir. Il y a beaucoup de révoltes paysannes à cause des famines qu'il y a à l'époque. Et donc, la monarchie se dit, on va un petit peu détourner l'attention, on va rassembler tout le monde autour d'un bûcher et fédérer tout le monde autour de la crainte de la sorcière. Exactement. Comme ça, ils s'occupent de se brûler entre eux et ils nous laissent tranquilles. Et aussi, on est au temps moderne. Donc, on essaye de... Les hommes de lettres, les hommes savants, se disent, avant, c'était le Moyen-Âge. Maintenant, on a le savoir. on va vraiment opposer en fait les connaissances des hommes qui fréquentent les lieux classiques de transmission comme les universités et les connaissances empiriques que les femmes ont, leurs croyances et leurs superstitions populaires. Voilà, vraiment, comment dire ça, une dén pas dénonciation, mais on va vraiment dénigrer, on va dire,
Ouais.
ces croyances-là pour mettre en avant ben, ces lieux classiques et qui sont gérés par les hommes, en fait.
C'est un
Parce
peu,
que,
vous êtes mignonne, maintenant on va reprendre le truc, quoi.
voilà, parce que, voilà, par exemple, les études de médecine à l'université vraiment sont institutionnalisées. Et les sages-femmes qui pratiquaient la médecine pour soigner les femmes qui allaient accoucher, etc., ben, on va leur dire, ben non, maintenant, laissez la place aux hommes. Même
C'est
si
ça,
les hommes
c'est le
n'étaient pas
médecin
plus
qui va
efficaces.
faire et vous serez derrière.
Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est toutes les causes que j'ai pu retrouver. Maintenant, il y en a d'autres peut-être. Il peut aussi, selon la région, les lieux, ça change. Mais ça, c'est
Ouais.
vraiment les fondamentaux.
Oui, c'est les choses qu'on retrouve le plus souvent, effectivement.
Voilà.
Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de dire, bah, faut pas se concentrer que sur le fait que y avait tel livre qui a été publié à telle époque, quoi. Ça suffit pas.
Ben oui, surtout que certes, un livre, ça représente une opinion de l'époque, mais comme on le voit, il y a toujours des différentes opinions. Tout le monde n'est pas le petit mouton qui suit ce que
Oui.
l'évêque du coin a écrit. Les gens avaient aussi leur jugeote à l'époque, et même si ils avaient peut-être moins tendance à le mettre par écrit, hein, d'ailleurs, l'auteur des Évangiles des Quenouilles est anonyme. C'est pour ne pas s'attirer non plus les foudres des autorités moralisatrices.
Oui.
Voilà, c'est un peu pas la majorité silencieuse, mais on va dire ça, que c'est les gens
Puis,
qui n'en pensent pas moins, mais qui vont pas non plus se rebeller contre les bûchers. Voilà.
ouais. Et puis comme tu disais au début, on ne peut pas analyser notre époque avec Fifty Shades of Grey. Bah, là, c'est pareil. On ne peut pas analyser les chasses aux sorcières avec juste les Évangiles des Quenouilles ou juste le Malleus Maleficarium. Il faut regarder un peu plus loin, quoi.
Voilà, c'est ça.
J'aime beaucoup cet exemple. Bah on a fait un bon tour là, on s'en sort bien niveau temps.
Oui,
C'est incroyable, ça n'est
ça
jamais
va vite.
arrivé.
Mais j'ai tendance à
Donc,
être très, très concise.
bah ouais, mais c'est bien parce que du coup c'est très clair. Donc du coup, si tu devais résumer, alors c'est toujours un peu drôle de demander à quelqu'un qui a travaillé pendant plusieurs années sur un sujet, de lui demander de résumer. Mais en quoi les Évangiles des Quenouilles présentent une version originale de la figure de la sorcière? Et en fait, pourquoi étudier ce livre et pourquoi aller regarder ce qui est écrit dedans?
Alors, les femmes des évangiles, les quenouilles, c'est clairement des sorcières, même si elles ne sont pas mentionnées comme telles, même si leurs noms font référence à des fées, à la sorcellerie, ou elles ont étudié dans des lieux de sorcellerie, on ne les désigne pas explicitement comme sorcières. Elles sont vieilles, lubriques, elles lisent l'avenir, elles connaissent l'art de guérir, des herbes médicinales, comment faire des talismans protecteurs. Ben, c'est des sorcières, quoi.
Ouais,
Et
ça colle carrément.
voilà. Et donc, mais par contre, à aucun moment, leurs croyances sont décrites comme maléfiques. Hein. Au contraire, certaines croyances s'appuient sur des rituels chrétiens. On va dire, voilà, le jour de la Saint-Georges, tu vas aller cueillir telle plante, tu vas réciter telle prière, et comme ça, tu vas guérir de telle maladie.
Ouais.
Donc, c'est vraiment un mélange de savoir populaire, de religion chrétienne et de magie, de rituel. Mais ce n'est pas décrit comme étant vraiment un acte de sorcellerie. L'auteur,
Puis
il ne
c'est
fait jamais
pour
non
faire
plus
des choses
mention d'un.
positives, c'est pour soigner.
Voilà, en plus. Et l'auteur dit jamais que qu'il y a eu un pacte avec le diable ou avec des démons. Et au contraire, quand on évoque les démons ou les sorcières, c'est pour s'en protéger.
Ah.
C'est vraiment, voilà, si tu mets telle brindille derrière ton meuble, eh bien, tu pourras éloigner les sorcières et elles ne te chercheront pas de problème.
Alors, en fait, la sorcière, c'est celle qui pose la brindille.
Bah oui, c'est une petite. Il y a des rituels dans les livres comme Witch Please qui ressemblent un peu à ce qu'il y a dans les évangiles des quenouilles, donc.
C'est drôle.
Et pourtant, bah, comme il ne les condamne pas, alors qu'il est vraiment contemporain du Maleus Maleficarum et d'autres traités contre la sorcellerie, et à une époque où l'Inquisition est vraiment active, où les autorités laïques et religieuses vraiment augmentent la pression contre les femmes marginalisées, les prostituées, ben, les évangiles des quenouilles sont vraiment à contre-courant avec l'opinion des autorités. Et c'est pour ça que les évangiles des quenouilles sont vraiment intéressants. Et les gens de l'époque, je pense qu'ils auraient compris cette lecture à deux niveaux des évangiles des quenouilles, certes, ils voyaient le texte pour le texte humoristique qu'il est. Hein. C'est un texte qui s'appuie sur la tradition misogyne, qui dénigre et qui se moque de la femme. Hein. Il les met
Oui,
pas
il est pas
en.
tendre, hein.
Ah oui, voilà. Mais vraiment, il dédramatise toutes les craintes qu'on peut avoir sur ces pouvoirs magiques supposés. Voilà. L'auteur, il remet pas en question la place de la femme dans la société, il dit pas oh, les pauvres femmes qu'on brûle, c'est pas juste. Non. C'est pas ça le
Oui,
propos.
bon.
Il dit juste bah non, en fait, ces femmes, ces vieilles femmes, c'est des ignorantes, elles sont inoffensives, mais elles sont plutôt sympathiques et attachantes, voilà. Leurs
Allons boire un coup
croyances.
avec elle plutôt que les brûler vives.
Voilà, leur croyance, vraiment, c'est ridicule, c'est inefficace, c'est vraiment minimiser leur pouvoir. Des évangélistes qui ressemblent aux femmes qu'on amène au bûcher à la même époque, et du coup, bah, c'est un peu un moyen détourné bah, de se moquer de l'Inquisition. Les femmes des évangiles des quenouilles, ce n'est pas des sorcières. Mais c'est des femmes indépendantes, sans époux, des veuves, des marginales, qui exercent des fonctions peu valorisées par la société, mais leur place, c'est pas devant le tribunal, c'est pas au bûcher, parce qu'elles sont inoffensives, leurs croyances sont stupides, on va pas brûler les gens parce qu'ils sont bêtes, on s'en sort plus sinon. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que les évangiles des quenouilles sont originaux, c'est vraiment l'aspect à contre-courant des autorités de l'époque, qui condamne les femmes marginales alors que lui il dit bah non elles sont sympathiques voilà et pour moi les lecteurs des évangiles des quenouilles ils avaient les clés pour voir ce message et qui partageaient à mon avis un peu la vision de l'auteur
Ouais. Et comme
voilà.
ça a été bien diffusé, on peut voir que ben, la période des chasses aux sorcières, il y avait certes des gens qui en ont profité, mais il y en avait aussi qui, du coup, ont mis
Mais qui
plus de
n'approuvaient pas
distance,
la
quoi.
chose voilà.
Ouais. Qui
Ils
n'étaient
n'ont
pas
pas non plus.
forcément actifs, qui n'ont pas demandé aux gens d'arrêter, mais qui se sont dit, je vais pas participer, moi, allez.
Je cherche pas les
C'est
problèmes, mais j'en pense pas
une...
moins.
Voilà. C'est une première étape, écoute.
Oui, c'est toujours pas de prix. Moi, j'imagine que la femme au bûcher, elle aurait peut-être aimé que quelqu'un dise, je m'y oppose.
Au lieu de rester chez lui,
Mais
oh non, je m'en mêle pas.
en train de dire les quenouilles, mais c'est bien gentil. Enfin, voilà.
Bah super, merci beaucoup. C'est vraiment hyper intéressant comme sujet. C'est un axe que moi je ne connaissais pas et du coup ça m'a passionné de bah déjà de lire ton mémoire et ensuite de t'en entendre parler.
Moi, ça m'a fait plaisir de me replonger dedans et de
Bah
pouvoir en
justement,
parler.
depuis que tu as travaillé ce mémoire, tu as continué à travailler sur les sorcières ou pas du tout?
Mais pas du tout.
Ah.
Malheureusement, j'aurais bien aimé. Mais bon, c'est un peu un sujet de niche. Et donc voilà, je travaille, hein, je continue à faire des recherches pour mon plaisir, à lire sur la sorcellerie, à écouter C'est pas sorcière.
Oh.
Mais voilà, je ne travaille plus dans ce
Dans la
domaine-là.
sorcière.
Voilà.
Est-ce que tu aurais bah, des choses à recommander, vu qu'on arrive à... Je t'avais pas préparé la question, alors désolé, c'est un peu brut, mais des choses que tu aimes bien justement autour de la sorcière que tu aurais envie de recommander.
J'avoue, je suis une très mauvaise sorcière parce que je ne pratique pas du tout. J'adore
À moi
lire.
non plus.
C'est terrible, hein. Je lis tous les rituels, je suis là, oh waouh, c'est intéressant, mais j'en fais aucun. Donc, ouais, non, en plus, c'est souvent vos recommandations, quoi. Je prends, j'avais découvert le jeu Witch in the Wo Witchwood. Ah, j'avais trop aimé.
Qu'elle m'avait rejoué beaucoup.
Donc, ça, ouais, c'est vos recommandations que j'ai, mais moi, c'est
Donc,
bon.
ta recommandation, c'est d'aller voir nos recommandations.
Ouais, exactement. Écoutez, c'est pas sorcière.
Génial.
Continuez.
Tu es la meilleure invitée.
Ah, merci.
Bah encore merci d'avoir participé à cet épisode. Je vais faire la petite conclusion habituelle en remerciant aussi les éditeurs, non C'est le matin, je suis pas bien réveillée. En remerciant aussi les personnes de nous avoir écoutés. S'ils veulent en savoir un peu plus, ils peuvent nous retrouver sur leur plateforme de podcast favorite pour écouter tous les épisodes, mais aussi sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, puisqu'on a un peu abandonné les autres. Et dans les remerciements habituels, je remercie Moonenset pour la musique et Craig, notre ingé son. N'oubliez
N'oubliez
pas de
pas de
rester
mettre
magique!